Vous écoutez On lit pour vous.
Le programme d'éducation à la sexualité compromis par des parents. Un texte d'Isabelle Haché et Ariane Lacourcière paru le 2 novembre 2024 dans La Presse. Les conseils d'établissement des écoles primaires et secondaires du Québec ne sont pas l'endroit pour faire valoir ses valeurs ou croyances personnelles, affirme la présidente du comité de parents des écoles de Montréal, Kileka Koulibaly. Quand on décide de s'impliquer au sein d'un conseil d'établissement, on doit s'imprégner de la vie de l'école. On doit représenter la communauté en entier, et non pas le faire pour des raisons personnelles, affirme Mme Koulibaly. Selon une enquête de La Presse, des parents impliqués dans les conseils d'établissement de 3 écoles du quartier Côte-des-Neiges ont manœuvré ces dernières années pour bloquer certains contenus en éducation à la sexualité, pourtant obligatoire dans le programme scolaire québécois. Ces parents d'élèves siègent ou ont siégé au conseil d'établissement des écoles primaires Bedford et Saint-Pascal-Bellon, ainsi qu'à l'école secondaire Lavoie. La première a déjà fait l'objet d'un rapport dévastateur du ministère de l'Éducation. Les 2 autres sont dans la ligne de mire du ministère. Mme Koulibaly dit n'avoir jamais vu une situation semblable depuis son arrivée au comité de parents des écoles de Montréal en 2018. Selon 3 sources au fait du dossier, mais non autorisées à parler publiquement, les problèmes observés à l'école Lavoie sont essentiellement liés au conseil d'établissement. Le 4 juin 2024, les fonctions et pouvoirs de cette structure de gouvernance, essentielle au bon fonctionnement de l'école, ont carrément été suspendues tant les tensions étaient vives entre les parents et les enseignants qui y siégeaient. D'après nos 3 sources, en pleine séance, le président du conseil, Saïd Soali, et les 3 autres membres parents se sont levés en bloc et ont quitté les lieux, furieux que les membres du personnel éducatif leur aient, selon eux, manqué de respect. À la source du conflit, l'invitation à l'école Lavoie du groupe de recherche et d'intervention sociale, GRIS Montréal, un organisme œuvrant à démystifier la diversité sexuelle et de genre. Depuis des mois, les 4 parents membres du conseil d'établissement de l'école Lavoie s'opposaient à cette visite. Dès le 7 novembre 2023, ils avaient refusé d'approuver la planification en éducation à la sexualité proposée par la directrice en raison de la visite du GRI Montréal, selon le procès-verbal de la séance. La directrice est revenue à la charge à la séance suivante, le 6 février 2024, selon le procès-verbal. Les parents du conseil se sont de nouveau opposés à la visite du GRI Montréal. Malgré cette résolution, un intervenant du GRI Montréal s'est rendu à l'école Lavoie quelques jours plus tard, puisque les enseignants, jouissant d'une autonomie professionnelle, n'ont pas à se faire dicter les outils pédagogiques à employer ou à éviter par des parents d'élèves, fût-il membre du conseil d'établissement. Le GRI Montréal a même été invité une seconde fois à l'école Lavoie à la fin mai 2024 après une crise dans une classe de 2e secondaire. Cette décision a profondément choqué les parents membres du conseil d'établissement. Le 2 juin 2024, Saïd Soali s'est plaint de la situation, par écrit, à la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM, Isabelle Gélina. Lors de la séance du 6 février 2024, le conseil d'établissement a adopté une résolution selon laquelle l'organisme Gris Montréal n'était pas autorisé à intervenir auprès de nos élèves. Cette résolution a été adoptée dans l'intérêt supérieur de nos élèves conformément à l'article 64 de la Loi sur l'instruction publique, a écrit M. Soali. Cette résolution a pourtant été ignorée, a-t-il regretté. Saïd Soali, parent et président du conseil d'établissement de l'école Lavoie, dans une lettre adressée au CSSDM début juin, témoigne. Les parents estiment que l'intervention de l'organisme en question, Gris Montréal, a affecté le bien-être de leurs jeunes et porté atteinte à leurs droits, notamment le droit à l'information et la liberté de religion ou de conviction. Deux jours plus tard, durant la séance du 4 juin 2024, Saïd Soali a tenté de modifier l'ordre du jour pour revenir sur la visite du Gris Montréal en classe, sans succès. La séance s'est terminée abruptement quand les quatre membres parents, tous d'origine maghrébine, se sont levés pour claquer la porte. Le 10 juin 2024, le CSSDM a répondu à M. Soali que le conseil d'établissement n'avait pas à se mêler des contenus enseignés aux élèves. Saïd Soali a remis sa démission. Il n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Vous écoutez le programme d'éducation à la sexualité compromis par des parents. Un texte d'Isabelle Haché et Ariane Lacourcière, paru le 2 novembre 2024 dans La Presse. Une influence communautaire. Selon le registre des entreprises, Saïd Soali est président du conseil d'administration du Centre communautaire d'Arlington, un organisme religieux qui enseigne notamment les principes du Coran à des enfants musulmans du quartier Côte-des-Neiges. Le Centre communautaire d'Arlington est situé à deux pas de l'école primaire Bedford. Le rapport du ministère de l'Éducation révèle que des membres du centre avaient créé une page Facebook pour dénigrer l'enseignement à Bedford. L'un d'eux avait même fait irruption dans l'école en apostrophant une enseignante en hurlant. La direction avait dû composer le 911. Selon le rapport du ministère, le conseil d'établissement de l'école Bedford, dont Saïd Soali était par ailleurs un membre parent en 2023-2024, a maintes fois cherché à bloquer des contenus en éducation à la sexualité, comme à l'école Lavoie. Dans le cas de Bedford, ces manœuvres ont souvent été couronnées de succès. La preuve testimoniale a révélé que les contenus en éducation à la sexualité ne sont pas enseignés à l'école Bedford, et ce depuis plusieurs années, lit-on dans le rapport. Il semble y avoir des enjeux au niveau de l'adoption de la planification par le conseil d'établissement. L'école Saint-Pascal-Bellon. La première séance du conseil d'établissement de l'école Lavoie, depuis la crise de juin, s'est tenue le 24 octobre 2024. Ce soir-là, un autre parent membre, Abdel Hakim Toumou, a été désigné président. Or, selon nos trois sources, cette nomination ne risque pas d'apaiser le climat, puisque M. Toumou serait largement à l'origine des tensions de la dernière année au sein du conseil, bien davantage, en fait, que Saïd Soali. D'ailleurs, Abdel Hakim Toumou, qui a décliné notre demande d'entrevue, n'aurait pas seulement contribué à envenimer l'atmosphère de l'école secondaire La Voix. Jusqu'en octobre 2024, ce père de 5 enfants était président du conseil d'établissement de l'école primaire Saint-Pascal-Bellon, située non loin sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Dans une enquête du Devoir publiée récemment, le CSSDM déplorait que le conseil d'établissement de cette école ait instauré pendant des années un climat hostile en remettant systématiquement en question les décisions et orientations de la direction. Le 13 mai 2019, Abdel Hakim Toumou et les autres membres parents se sont opposés à la planification des cours d'éducation à la sexualité de l'école. 3 ans plus tard, durant la séance du 21 mars 2022, le même scénario s'est reproduit. Selon le procès-verbal, M. Toumou avait alors souligné que l'éducation à la sexualité devait prendre en considération les réalités des élèves et de leurs parents, notamment sur les plans socioculturels et religieux. Il se questionnait sur la pertinence d'enseigner les contenus en éducation à la sexualité aux élèves du préscolaire. Face aux nombreuses objections de M. Toumou, la planification des cours n'avait pas été adoptée lors de cette séance. Le CSSDM a confirmé au Devoir que, depuis des années, l'éducation à la sexualité a été mise de côté à l'école Saint-Pascal-Bellon, à l'exception de certains contenus présentés aux élèves par le CLSC du secteur. Le quotidien cite une lettre signée par l'équipe école en mai 2021, faisant état d'un climat acrimonieux et quérulent au sein du conseil d'établissement. Selon nos 3 sources, le même climat acrimonieux s'est instauré au conseil d'établissement de l'école secondaire La Voix depuis que s'y implique Abdel Hakim Toumou, qui a été chargé de cours à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Le ministre Drainville promet d'agir. Le 22 octobre 2024, le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a indiqué qu'un mandat avait été confié aux équipes du ministère afin qu'elles procèdent rapidement à des vérifications aux écoles La Voix et Saint-Pascal-Bellon, ainsi qu'à l'école primaire Bienville, dans le quartier Saint-Michel, visant principalement le climat au sein de ces écoles, ainsi que de possibles ingérences dans les instances de gouvernance. Au micro de Patrick Lagacé, sur les ondes du 88,5 FM, Bernard Drainville a précisé qu'il y a, sur les conseils d'établissement, des personnes qui ne sont pas là pour l'intérêt des enfants, comme le prévoit la loi. Le ministre a demandé au CSSDM de prendre tous les moyens, y compris les moyens juridiques, pour s'assurer que les conseils d'établissement font leur travail. Sur le réseau X, M. Drainville a dit prendre très au sérieux la situation rapportée par les médias et indiquer que les enquêtes permettront d'agir en conséquence quand elles seront complétées. Le CSSDM est pleinement engagé à collaborer avec le ministère dans toutes ses démarches, assure son porte-parole Alain Perron. Soulignons aussi que la majorité des membres du personnel qui y œuvrent sont engagés à répondre aux besoins des élèves et à offrir un environnement harmonieux. Vous écoutez le programme d'éducation à la sexualité compromis par des parents, un texte d'Isabelle Haché et Ariane Lacourcière paru le 2 novembre 2024 dans La Presse. Conseils d'établissement, des champs d'action parfois mal interprétés. Les enquêtes ministérielles qui examinent actuellement le fonctionnement de 3 écoles de Montréal soulèvent des questions à propos des conseils d'établissement. Comment fonctionnent ces entités peu connues du public? Explication. Comment sont nommés les conseils d'établissement? À chaque rentrée, les parents d'élèves d'écoles primaires et secondaires sont invités à une assemblée générale où de 4 à 7 parents, selon la taille de l'école, sont nommés ou élus au conseil d'établissement, explique Éric Morissette, professeur du département d'administration et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal. En plus des parents, des élèves et des membres de l'équipe école siègent aussi au conseil d'établissement, qui sont toutefois toujours présidés par un parent. Le directeur ou la directrice de l'école a le mandat d'assister le conseil d'établissement dans ses fonctions, ajoute Lynn Martel, professeure en leadership pédagogique à l'Université de Montréal. Quels sont les pouvoirs et fonctions d'un conseil d'établissement? Ils sont déterminés par la loi sur l'instruction publique. La fonction première d'un conseil d'établissement est d'adopter le projet éducatif de l'école, explique M. Morissette. Le conseil doit aussi être consulté et informé de plusieurs éléments liés au fonctionnement de l'école. Il doit également adopter et approuver un certain nombre de propositions de l'équipe école. Selon M. Morissette, des problèmes surviennent parfois en lien avec l'interprétation de ces deux verbes. Et quelle est la différence entre approuver et adopter? La démarcation entre les sujets qui doivent être adoptés et ceux qui doivent être approuvés est nettement énoncée. Les conseils d'établissement doivent, par exemple, adopter le projet éducatif, le budget et le rapport annuel des activités. Quand on adopte, on a le droit de modifier la proposition qui nous est faite, souligne M. Morissette. Quand une direction dépose son budget annuel, le conseil d'établissement a, par exemple, le droit de proposer que les sommes affectées à l'achat d'une nouvelle photocopieuse servent plutôt à embaucher une psychoéducatrice. Le conseil d'établissement a le mandat d'approuver le temps imparti à chaque matière, le matériel pédagogique utilisé et les conditions et modalités de l'intégration dans les services éducatifs aux élèves, des activités ou des contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation, notamment. Et quand le conseil d'établissement approuve une proposition, il ne peut pas la modifier, précise M. Morissette. Et surtout, il ne peut substituer sa propre décision ou exiger que le pouvoir soit exercé selon ses exigences, ajoute-t-il. Il doit seulement dire si oui ou non il accepte la proposition. Si le conseil d'établissement refuse une proposition à approuver, la direction doit revenir avec une nouvelle proposition à la réunion suivante. C'est dans ce contexte que peut survenir parfois un certain blocage, explique M. Morissette, quand le conseil d'établissement refuse à répétition des propositions. Pourquoi donner ce pouvoir aux parents? La présence des parents sur les conseils d'établissement a été souhaitée parce qu'ils peuvent apporter beaucoup à l'école, rappelle Mme Martel de l'Université de Montréal. Si on ne faisait que les consulter, ce ne serait pas intéressant, ajoute M. Morissette. Présidente du comité de parents des écoles de Montréal, Kileka Koulibaly affirme que les dérapages au conseil d'établissement sont l'exception. Que peut-on faire en cas de blocage? Quand un blocage survient avec le conseil d'établissement, l'école peut en informer son centre de services scolaires qui enverra une lettre rappelant les champs d'action des conseils d'établissement. Les services juridiques peuvent aussi parfois s'impliquer. Dans des cas rarissimes, la direction peut prendre les pleins pouvoirs de décision, le temps de dénouer l'impasse. C'était le programme d'éducation à la sexualité compromis par des parents. Un texte d'Isabelle Haché et Ariane Lacourcière, paru le 2 novembre 2024 dans La Presse.
Partir pour exister, l'exil LGBTQ+. Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 30 octobre 2024 dans le magazine Fugue. L'exil LGBTQ+, est souvent perçu comme une échappatoire, une fuite nécessaire face à l'oppression. Qu'implique réellement ce saut dans l'inconnu? Plus qu'un changement de décor, c'est une confrontation avec soi-même, une quête identitaire jalonnée d'obstacles, de renoncements et de découvertes. Derrière chaque départ se cache un désir viscéral de vivre sans compromis, dans un contexte où la discrimination demeure omniprésente. Le véritable défi commence cependant une fois le rivage atteint. J'ai moi-même vécu cette réalité à la vingtaine, alors que je me tenais à un carrefour crucial de mon existence. Je me souviens de cette soirée où, d'une simple phrase cinglante, mon père m'a fait comprendre que ma place n'était plus à ses côtés. Derrière la tradition familiale et les croyances religieuses, il y avait un rejet implacable de qui j'étais. Ce n'était pas la première fois que mon orientation était source de tension, mais cette fois, c'était la goutte de trop. Le climat oppressant, le poids injuste d'une faute que je n'avais jamais commise, était devenu insupportable. À cet instant, j'ai compris que ma différence, je devais la protéger, la cultiver et surtout la vivre pleinement. Et pour ce faire, il me fallait m'éloigner. Ce phénomène, partagé par des millions de personnes LGBTQ+, illustre les failles d'un monde où les lois et les mentalités n'évoluent pas au même rythme que les droits humains. Les violences familiales, les lois répressives ou les normes sociales archaïques oblige bon nombre d'entre nous à partir pour préserver notre dignité. C'est dans ce contexte que Montréal, avec son histoire de tolérance et de diversité, s'est imposée comme une terre d'accueil. En posant mes valises ici, j'avais la sensation de suivre un chemin tracé par tant d'autres avant moi, de m'inscrire dans cette lignée de personnes qui, elles aussi, avaient fui pour survivre. Les rues vibrantes de la ville, riche d'une diversité culturelle et identitaire, semblait promettre une liberté tangible que je n'avais jusqu'alors qu'effleurée. L'énergie collective était à la fois réconfortante et stimulante. Cette nouvelle liberté m'a d'abord enivré. Je pensais qu'en quittant ce qui m'avait oppressé, je trouverais un soulagement immédiat. Or, la solitude en exil n'a rien à voir avec celle que l'on quitte. Elle est plus subtile, plus insidieuse. Ce n'est pas l'absence des autres qui pèse le plus, mais cette confrontation inévitable avec soi-même. Les blessures et les attentes, que l'on croyait avoir laissées derrière, ressurgissent soudainement. Dans ce nouveau cadre, tout est à reconstruire. Je me revois assis sur le trottoir du village, observant des groupes d'amis partageant cette intimité que je n'avais pas encore trouvée. Chaque jour apportait son lot de questionnements, et je me demandais combien de temps il me faudrait pour enfin me sentir chez moi. En fuyant l'oppression, je m'étais heurté à une nouvelle barrière, celle de me redéfinir et m'intégrer. l'intégration n'a rien de facile. Il faut déconstruire des années de marginalisation, redéfinir les contours d'une existence longtemps perçue à travers le prisme du rejet. Les amitiés ne se créent pas d'un claquement de doigts. C'est un processus qui exige patience et résilience, mais il est nécessaire pour enfin pouvoir renaître, en étant affranchi des attentes des autres. Avec le temps, j'ai progressivement trouvé mes repères. En m'engageant dans des associations, en participant à des événements communautaires et en poursuivant mes études, j'ai peu à peu tissé des liens. Ces expériences m'ont ouvert à des facettes de mon identité que je n'avais jamais osé explorer auparavant. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui partagent mes luttes et mes rêves, ce qui a profondément renforcé mon sentiment d'appartenance. Cependant, il est crucial de rappeler que cette opportunité de reconstruire n'est pas donnée à tous. Beaucoup trop de personnes LGBTQ+ demeurent isolées, dépourvues de réseaux de soutien. L'isolement, lorsqu'il s'ajoute au traumatisme du rejet, peut s'avérer dévastateur. C'est pourquoi il est indispensable de créer des espaces sécurisés, des lieux où chacun peut se sentir accueilli et compris. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Montréal est devenu mon foyer. Ici, j'ai trouvé un environnement inclusif pour panser mes plaies, grandir malgré les cicatrices. Les blessures ne disparaissent jamais totalement. Néanmoins, cette ville m'a offert la possibilité de les transcender, de me reconstruire en tant que personne entière et digne. Mon exil s'est transformé en un acte de résistance, une affirmation de ma dignité face à un monde qui, trop souvent, refuse d'accepter la pluralité des identités. Partir, c'est choisir de ne plus se soumettre, d'affirmer sa propre valeur en dépit des normes, des lois et des regards. C'est refuser la compromission, et dans cette affirmation, il y a une forme de victoire. Ce combat n'est jamais individuel. Chaque histoire d'exil est un appel à l'action, une invitation à tendre la main à celles et ceux qui, encore de nos jours, affrontent ces mêmes épreuves. En prêtant attention à ces récits, nous avons l'opportunité de bâtir des ponts, d'encourager des conversations nécessaires et de mettre en lumière des expériences souvent invisibles. Ensemble, nous pouvons construire une société où chacun trouve sa place, sans compromis. C'était « Partir pour exister, l'exil LGBTQ+ ». Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 30 octobre 2024 dans le magazine Fugue.